René Boislève, La leçon d'amour dans un parc. Ce chapitre est écrit en guise de préface pour avertir le lecteur que l'on commence un conte libre. Je sais que votre désir secret en ouvrant un livre est de trouver un ami qui vous parle et qui volontiers vous laisse croire qu'il ne parle qu'à vous. Et moi, quand j'écris, je voudrais composer mes écrits comme une lettre où l'on rapporte ce que l'on sent, veut, au gré de son humeur, en ayant présente à l'esprit l'image de celui qui demain brisera l'enveloppe à son réveil. Aussi je vais m'offrir le plaisir, entre de graves romans qui sont difficiles, de raconter une fois ce qu'il me plaira, comme on improvise de jolis contes aux enfants. Par exemple, je vous avertis, puisque j'adopte le sujet de mon goût, que je me risque à vous raconter une aventure délicate. Oh, comme il est périlleux de raconter une aventure délicate à une époque où la licence dans les ouvrages romanesques est sans bornes. Les abus des goujats dans la liberté d'écrire tueront, si ce n'est déjà fait, ce qu'il y avait de charmant à écrire librement en notre langue, pourvu qu'on fût honnête homme. Plus sûrement qu'un régime oppressif, les excès nous raviront, pis peut-être que la liberté même, le goût de parler d'amour. Et je m'offre le luxe de choisir mes personnages. Vous me voyez joyeux comme un écolier qu'on a laissé faire main basse dans un bazar. Ah, mon lecteur, foi des créatures viles, des êtres écœurants, des touches tripoteurs, des vols voyous dont vivote la librairie moderne. Il s'agit d'oublier ses misères. Point d'avantage de personnages impeccables, race odieuse comme l'absolu, comme l'idée pure, comme toutes les conceptions des pédants qui ne participent pas de la gracieuse imperfection des choses créées. Pour moi, je me plais dans la compagnie des gens qui sont capables de commettre d'insignes faiblesses et qui les commettent, mais avec bonne grâce, d'une allure aisée et naturelle, telle en un mot que l'on sent que le bon Dieu les a mis au monde pour cela, et qui les regarde faire du coin de l'œil, sans trop froncer le sourcil. Maintenant, je vous prie de croire que je ne vais pas placer mon monde dans les endroits où l'odorat et la vue courent risque d'être offensés, ni dans ces maisons pauvres et grises, où nous puisons nos documents quand il s'agit de fixer l'histoire des mœurs, ni dans ces hôtels somptueux de Paris qu'il est indispensable de faire habiter par des gens tarés, pour peu que l'on ennuie à prouver de la première page que l'on est un écrivain sérieux. Enfin, je dirigerai les péripéties à ma guise, ce qui ne bouleversera probablement pas beaucoup l'ordre logique des notions humaines, car tout ce qui contrarie le rythme immuable de cette marche me choque. Mais je ne ferai pas exprès de m'y conformer, et je me réjouis de m'imaginer que je suis le maître des événements, le pays le plus attrayant, des jardins magnifiques, une jeune femme de corps parfait, un mariage. Il y avait autrefois un marquis de Chamarante, appelé Foulque de son petit nom, qui épousa une jeune orpheline nommée Ninon, héritière d'un beau château. Ce château était situé sur la pente d'une de ces douces collines, comme il y en a tant de si jolies au bord de la Loire. Et il avait été très bien aménagé, surtout quant à ses jardins, par feu M. Lemeunier de Fontevraud, qui raffolait des belles allées à la française, élancées dans les droites lignes entre les arbres de haute futaie, dont les libres panaches balaient le ciel, tandis que leurs corps disposés symétriquement, soumis aux ciseaux, parés et amis comme une rangée de courtisans, donnent l'idée d'une grande politesse de mœurs, d'une entente parfaite sur les choses primordiales de la vie courante, en même temps que d'une certaine réserve de liberté non dépourvue d'audace pour ce qui est des hauteurs, ou bien ne donne l'idée de rien du tout, si l'on a un plaisir pour la vue, ce qu'il faut tout autant. Il aimait les perspectives lointaines, la surprise d'une statue de marbre magnifique et isolée sous les ombrages, ou ayant l'air, à l'automne, de courir avec les feuilles que poursuit le vent. Et les terrasses à l'italienne, d'où retombent les pampres et les vignes vierges, en lourds baldaquins. Les balustrades, où l'on prend aisément une pose élégante, et où l'on s'imagine volontiers que l'on ne peut point ne pas penser à quelque chose de noble et de beau. Aussi avait-il répandu à profusion ses ornements sur sa terre de Fontevraud, allant depuis le sommet du coteau planté de moulins à vent jusqu'au bac d'Abbevoie, où les gens de Touraine traversent le fleuve pour gagner la vallée d'Anjou. Je regrette bien de n'avoir pas connu M. le Meunier de Fontevraud, car son goût pour les jardins me lui fait beaucoup aimer. Mais il est doux aussi de regretter une belle figure dont un long espace de temps nous sépare. On l'imagine plus pure et plus séduisante, et l'on a le droit de ne pas douter qu'elle vous eût choisi pour ami, ce qui n'est pas sûr. Et puis, je me dis que M. le Meunier de Fontevraud, ayant planté lui-même son parc, vit ses arbres moins hauts, ses berceaux moins touffus, ses charmilles moins mystérieuses, que nous n'allons les contempler. Enfin, à parler franc, puisque nous avons une dizaine d'années à passer dans ce château de Fontevraud, je préfère y voir la jeune héritière en sa pleine beauté, c'est-à-dire de 20 à 30 ans, plutôt que de l'y suivre à l'âge ingrat. D'autant plus qu'elle ne va pas tarder à avoir une fille qui sera beaucoup plus intéressante qu'elle sous le rapport de l'esprit. Monsieur le Fontevraud avait ramené Ninon, on ne sait d'où, car il était grand voyageur. Il avait fort mal élevé, ce qui est assez naturel, même un homme de valeur. Enfin, elle l'avait tenu chez lui jusqu'à sa 20e année, sans vouloir lui donner un liard de dot, tandis qu'il la couchait sur son testament et lui laissait toute sa fortune. Ninon avait, à cette époque-là, un visage arrondi, avenant, sans grimace, un corps potelé, souple, frais, éclatant sous la peau. Mais elle n'avait point de préférence pour aucun des hommes qui demandèrent sa main, et elle eût épousé aussi bien un vieux qu'un jeune, si on le lui eût imposé. Ces messieurs tirèrent au sort en buvant gaiement du vin blanc, car il y a beaucoup de caractères heureux dans le pays, et Ninon accueillit celui que la fortune avait désigné et lui apporta son château en échange du titre de marquise de Chamarante. Foulque se trouvait entre deux âges et n'était ni beau ni laid. Il tenait, tant de son père que des vignes de Chinon, Bourgueil, Saint-Nicolas et Saumur, ses bonnes nourrices, un sang ardent, mousseux, propre à l'action, mais vite apaisé et ne tirant sa vertu complète qu'au cours de digestions tranquilles et prolongées. Il fut très content de sa femme et dit à tous qu'il ne l'eût pas fait autrement pour ses propres mesures. Tous deux s'aimèrent pendant plusieurs semaines sans rechercher de compagnie. Au bout de ce temps, le marquis retourna à la chasse et la marquise, comprenant que la lune de miel était terminée, eut l'aimable idée de faire élever une statuette au dieu de l'amour afin de lui manifester sa reconnaissance. Elle n'était donc pas trop exigeante, prenant la vie comme elle venait, et montrait à l'occasion son excellent cœur. Mais faites attention, voilà une statuette de l'amour tel qu'il est. Elle a un rôle très important dans la suite du récit. Ninon confia l'exécution de son projet à un ami, M. François Gillet de Paris, dont elle avait entendu vanter le talent par feu son père adoptif. M. Gillet accepta, moyennant un bon prix, fit la statuette et vint la poser lui-même. Ce fut l'occasion d'inviter plusieurs parents et quelques personnes des environs qui vinrent en équipage ou en chaise, selon leur goût, leurs moyens. Madame de Mattefelon vint de Rochecotte avec son petit-neveu le chevalier d'Hautegard. Madame de Châteaubedeau vint avec son jeune fils, deux cousins du marquis, Monsieur de la Vallée Choury et Monsieur de la Vallée Malitourne, amenèrent chacun leur femme. Un vieil ami, Monsieur le baron de Chemillé, habitant Montsoreau, tout près, vint à pied, remuant les cailloux avec sa canne et parlant haut avec lui-même. Il y avait dans le parc une salle de verdure environnée des arbres les plus anciens. Elle était ornée d'une colonnade en hémicycle que M. le meunier de Fontevraud avait apporté fût à fût de Rome et laissé inachevée à sa mort. L'aspect incomplet de ce cirque de ruines doublement vénérable donnait à l'endroit plus de charme. Un bassin y dormait, ayant au centre un caillou d'un demi-pied environ, avec un petit trou fermé d'une cheville de bois. Quand vous ôtiez autrefois la cheville, il en sortait un beau jet d'eau de la hauteur de 3 toises. Mais, les conduites étant demeurées longtemps mal entretenues, cela vous chassait toutes les minutes une malheureuse pluie d'un effet comparable à l'éternuement. La marquise décida que l'on étoufferait la mécanique enrhumée et que l'on placerait à cet endroit même, sur un piédestal, le fils de Vénus. La caisse qui le contenait fut menée à bras jusqu'à la rotonde, et le sculpteur, homme vigoureux, armé d'un coin de fer, d'un marteau, cogna dessus avec prudence et, pendant longtemps, forçant les planchettes à bâiller à une, comme font les écaillères avec un petit couteau solide et ébréché. Il eut chaud, transpira, sa mâle odeur taquinait les narines des personnes qui le regardaient, tout rangé en rond dans l'attitude de gens qui assistent à un baptême. Ninon, la plus impatiente, ne craignait pas de se pencher au-dessus de minces copeaux frisés qui matelassaient le Cupidon. Qu'un chef-d'œuvre allait sortir de là-dedans, elle n'en doutait plus. Monsieur Gillet s'arrêta un moment. Il fit des yeux le tour de l'assistance en s'épongeant le front avec sa manche de chemise et avertit que, s'il se trouvait là de la jeunesse, il convenait de la renvoyer parce qu'il avait profité de son éloignement de l'académie pour tailler dans le marbre une figure libre. Dès lors, chacun eut peur de voir apparaître une horreur et l'on piétina d'impatience. Enfin, l'artiste s'enfonça mi-corps, palpa, tira à lui et accoucha la caisse. Il se redressa et présenta son ouvrage. Pris dans l'âge incertain où l'être pourvu de l'attribut viril semble encore l'ignorer et hésiter entre un geste d'enfant et celui d'une femme, Cupidon décochait une flèche au hasard. Et l'exquise particularité de cette figure était que, au lieu de fixer le but où va voler la pointe mortelle, l'adolescent, les paupières basses, regardait avec une surprise ingénue cette autre menue flèche suspendue au bas de son ventre et qui, pour la première fois, révélait son usage. Je vous laisse à penser s'il y eut des exclamations et des « oh » et des « ah » à croire que tout ce monde, prévenu qu'il allait voir l'amour, était à 100 lieues de se douter qu'il pût être ainsi fait. Au bruit, les domestiques eux-mêmes accoururent, et l'on voyait les servantes craintives s'arrêter en rougissant derrière les fûts de la colonnade. Madame de Mattefelon les chassait comme des mouches, avec son éventail d'une main, son mouchoir de l'autre. Elle faisait de grandes enjambées, criant au scandale et menaçant d'aller chercher le curé. Ninon semblait la moins courroucée, et comme elle était d'une grande sincérité, elle dit fort heureusement qu'elle ne voyait point de mal à représenter les hommes tels qu'ils sont, et elle se mit à rire de bon cœur avec tout le monde. La glace fut rompue. On s'accoutumait déjà à l'image inacadémique, et la grosse belle madame du château de Bodot lui trouvait de la ressemblance avec son petit garçon. Là-dessus, monsieur de Chemillé, qui avait envie de parler depuis longtemps, s'offrit une prise et abattit les voix du bout de sa canne. « Quant à moi, dit-il, je loue hautement l'artiste d'avoir marqué cette statuette de l'amour d'un signe éclatant, oh, jusqu'à choquer même, qui montre bien qu'il ne s'agit pas là d'une amusette, mais d'un dieu redoutable. Et loin de faire sortir la jeunesse, je l'amènerai là et je lui dirai « Voilà en vérité celui que les menteurs ont partout figuré sous l'aspect d'un bébé joufflu ou de colombe avec des rubans à la patte. Or, vous détournez la tête. Sa première vue vous épouvante. Oh, que fût-il advenu si vous l'eussiez rencontré par surprise au bord d'un chemin à la brume ? Mais voyez-le, il a le front borné et têtu, la bouche vulgaire d'un portefaix, le nez au vent d'une catin, le doigt court et stupatuleux de la brute, l'œil oblique et le front jarré de lâche. C'est un coquin, un hypocrite, un impudique, un sanguinaire. Et c'est le chérubin secret, à qui tout homme ouvre plus volontiers qu'au plus éprouvé et au meilleur de ses amis, à qui toute femme est exposée à sacrifier son honneur, son mari, l'avenir de ses enfants. « Monsieur, objecta madame de Maffetelon, il se peut que les choses soient telles que vous le dites, encore qu'il y ait parmi nous, grâce à Dieu, bon nombre de femmes qui ont trouvé à l'amour une autre figure que celle-là, et qui l'ont pu toucher sans se salir ni se déshonorer. » Mais si c'est vous qui avez raison, que ne laissez-vous cacher dans l'ombre ce vilain démon, au lieu d'en étaler la crudité au grand jour, comme un objet propre à frapper d'horreur? Exposez la jeunesse à l'émotion de la rencontre brutale, au bord d'un chemin, à la brume, me paraît moins cruel que de l'avertir, dès sa fleur, de cette fatale destinée. Pourquoi assombrir de jeunes fronts? Oh, je serais plutôt porté à croire, monsieur, que nous leur devons d'innocents mensonges, et qu'en leur voilant les yeux le plus longtemps possible, nous leur faisons la vie moins pénible. » Et monsieur le baron de Chemillé et madame du Matefelon continuèrent à parler au moins 10 bonnes minutes sur ce ton. Mais j'arrêterai là leur discours, car les dissertations morales m'ennuient énormément. Vous ai-je dit que, pendant que les deux vieillards péroraient, Foulque avait demandé à boire, et que le Saumur pétait à rendre jalouse la mousqueterie française. Après quoi, des hommes entrés dans l'eau, les jambes nues, étranglèrent les conduites de plomb de l'appareil ancien, hissèrent la statuette et l'assujettirent solidement sur un socle, en plaquant la chaux vive qu'ils étalaient à la truelle. M. J.L. lui-même, ayant retroussé sa culotte, avait aux cuisses 2 bourrelets verdâtres quand il eut achevé sa besogne, et plus d'un dame les lui eût essuyés si elle eût osé. D'abord 4 belles femmes aux mains, éloge d'une femme mûre. Ensuite vient le récit d'un enfantillage qu'accomplit l'oisive Ninon et qui n'est pas du tout en dehors d'œuvre comme on pourrait être tenté de le croire. Ninon, depuis lors, affectionna beaucoup cet endroit. Elle fit creuser, agrandir, embellir le bassin et un canal souterrain y entretint une eau pure et courante où elle se baignait volontiers au coucher du soleil avec la grosse belle madame de Château de Bodot et mesdames de la vallée Choury et de la vallée Maltoury, tandis que madame de Maffetelon, qui par bonheur pour notre vue craignait l'eau froide, s'employait à retenir loin de là son petit-neveu, le chevalier de regard et la jeune Château-Bordeaux, celui qui ressemblait à l'amour. Autour de la margelle fut déposée une épaisse couche de sable fin pris dans le lit de la Loire et un gazon agréable aux pieds nus, s'étendant jusqu'à l'hémicycle, recevait les belles nonchalantes au sortir de l'eau. J'ai peur que vous ne vous imaginiez que Madame de Châteaubedeau n'en est point jolie à voir en cet état parce que j'ai dit qu'elle était forte. Non, ce serait une erreur. Assurément, elle avait perdu ce qu'on est venu d'appeler la fleur de la jeunesse, et on lui donnait, bon gré mal gré, la quarantaine. Mais il ne manque pas de femmes de cet âge. Dès qu'il est charme, au lieu de faiblir, on grandit d'année en année. Cela menace de tomber tout d'un coup, me direz-vous, comme ces poires de superbe apparence qu'on trouve par terre et la chair blette un beau matin. Oh non, point du tout. Si je me faisais scrupule d'entrer dans cette description de chair nue qui rendent suspectes les intentions de l'écrivain lorsqu'elles ne sont pas nécessitées rigoureusement, ce qui est le cas, rien ne me serait plus aisé que de vous prouver que Madame de Châteaubedeau tenait encore ferme à l'arbre. C'était une de ces grandes femmes si bien proportionnées qu'aucune de leurs parties, qui considérées à part semblent de dimensions inusitées, n'expose à la critique. Si l'on en prend une vue d'ensemble. Combien l'eussent préféré, par exemple, à Madame de la Valléchourie, de 10 ans plus jeune, qui était petite, avait la peau brune, et n'avait presque pas plus de gorge qu'un garçon. Ceci dit, pour ôter toute ambiguïté touchant les grâces réelles de cette belle femme, c'est que je serais si fâché de vous avoir donné à considérer au bain une femme mal faite ou défraîchie. Pour les 3 autres, il n'y a pas lieu d'insister, puisqu'elles sont toutes jeunes, que vous savez déjà quelques particularités de l'une d'elles, et que nous aurons trop d'occasion de connaître cette petite merveille physique de Ninon. De Madame de Laval et Malitourne, je n'ai pas envie de dire grand-chose. C'est une chatte onduleuse et ronronnante. Est-ce que vous aimez ces bêtes dont les chines serpentines recherchent le frôlement d'un pied de la table à l'égal de la caresse de votre main? Leur grâce les sauve, mais c'est donc qu'elles en ont besoin. Les voilà couchées, les 4 belles, sur l'herbe ou sur la mousse, et dans ce lieu charmant, à l'heure où le soir marche à pas de loup dans les bois. Ceci n'est point une fiction. Cela a plus de corps que le présent que nous touchons du doigt, puisqu'il n'y a guère Dieu qui ait contemplé les bassins d'un vieux parc sans évoquer un tableau de ce genre. Et les aveugles eux-mêmes le voient lorsqu'ils entendent prononcer le nom de Versailles, de Fragona ou de Watteau. Entendez-vous comme moi le vent léger dans le feuillage qui fait lever la tête à la plus peureuse? Le bruit intermittent et régulier d'un insecte qui semble tourner un rouet minuscule, et le sable fin qu'un pied nu soulève et qui retombe en grésillant, ayant laissé sa poudre au duvet d'une jambe. Voyez-vous le nuage rondelet qui se déchire là-haut comme une peau d'orange, le vol céleste des hirondelles, la cime heureuse d'un érable tout frémissant, la grosse perle d'eau qui coule à regret, suivant la courbe d'une hanche humide. Soudain, la brise entr'ouvre la haie d'arbustes, touffu, et le couchant éclatant apparaît comme un dieu qui vient surprendre les nymphes. Elles se lèvent effarouchées, courent à leur linge et s'habillent avec des pudeurs à l'abri des colonnes. Proche de là, Ninon fit construire un champignon pouvant couvrir une compagnie de musiciens et une chaumière rustique où s'abriter en cas de pluie. Elle aimait les concerts à la nuit tombante, aussitôt poussait le dernier cri d'oiseau. Elle s'énervait par l'effet de la musique et à la contemplation du jeune amour. Parfois même elle restait seule ici, s'asseyait à la portée de ses traits, et la crainte furtive de la blessure de l'enfant pubère la languissait de longues heures durant. Elle regrettait que son mari passât ses journées à la chasse, répandît une si forte odeur et fût si velu. Cependant, elle fermait les yeux et l'imaginait près d'elle, la saisissant dans ses grandes mains comme au premier jour. Mais elle se donnait le plaisir de le rêver plus jeune et plus beau. Voilà le moment venu de raconter la folie qu'accomplit Ninon de complicité avec la statuette. Vous savez le cas de notre pauvre petite marquise. Je ne vous ai pas caché qu'elle avait été élevée sans principe et qu'elle était dépourvue de cette intelligence robuste qui parfois supplée à cet inconvénient. Malgré cela, je suis convaincu que si la Providence n'eût pas tant tardé à lui accorder la fillette qui devait être née depuis longtemps pour que mon compte fût bien composé, rien de regrettable ne se fût produit à défaut de cela. Voilà ce qu'il advint. Quand Ninon allait rêver seule auprès du bassin de l'amour, elle regardait tomber les feuilles que la fin de l'été détachait une à une, et celles que les marronniers semblaient jeter du haut du ciel avaient l'apparence de grandes mains gantées d'or qui palpaient l'air tiède en tâtonnant et souvent s'arrêtaient à caresser l'amour avant de s'aplanir à la surface de l'eau. Certaines étaient gluantes et n'en finissaient plus de se détacher du petit corps. Et Ninon s'amusait avec une baguette à piquer ou fouetter les importunes sur une des épaules ou entre les lèvres du marbre. Or, un jour de chaleur accablante, Ninon, étendue sur la mousse, regardait son cupidon avec des yeux quasi stupides qui ne plaisent pas toujours chez les femmes. C'est comme une taie légère que Dieu dépose en passant dans l'air chaud et en disant « Regarde, participe à la sublime imbécilité de la terre. » Puis il va plus loin, répandre le même bienfait. Une meute fut passée par là que Ninon ne l'eut pas vue. Son front et ses tempes se rétrécissaient comme le haut d'une bourse dont on serre les cordons pour presser une seule et malheureuse petite idée la plus innocente et la plus enfantine en apparence. Figurez-vous que le même coup de vent tiède où j'ai supposé que le Seigneur se faisait porter avait vêtu le Cupidon d'une courte culotte de feuilles mortes qui, pour comique qu'elle parût, n'en était pas moins disgracieuse. Et la petite idée de Ninon consistait à aller ôter ce vêtement végétal de sa propre main. Pourquoi pas avec la baguette? Parce que, se disait-elle, il y aurait danger d'endommager le hardi, mais délicat relief qui valait tant de piquant à l'œuvre de M. Gillet. La voici debout, puis elle s'accroupit, éprouve l'eau de la main, se dégrafe, laisse aller ses vêtements, elle est assise sur la margelle, ses deux belles jambes tout entières s'entr'ouvrent sur le profond miroir. Et hop, elle gagne à la nage les degrés du socle et surgit, emperlée de la nuque au talon. Elle entoure d'un bras la taille du jeune dieu et d'une main agile, tâtant sous la feuillée le fragile objet dérobé au regard, le découvre, le débarrasse, en fait jaillir la pulpe charnue, tout de même que si elle s'y fût prise pour parler des châtaignes. « Oula, madame la marquise, elles ne sont point mûres, vous allez vous casser les dents !» C'était le jardinier Cornebille, qui, entre les branches à demi dégarnies, ne pouvait contenir sa surprise. Le chevalier de Teugar contribue par amour à l'expulsion de Cornebille, puis on apprend à distinguer ce jeune homme réservé de son bouillant camarade Château-Bedeau. Il est clair que les deux pages de la marquise sont destinées à se déchirer entre eux. Mais que vois-je? Ninon accouche de la petite fille annoncée. Les événements les plus graves ont souvent leur source dans de méchants petits hasards de rien du tout. Et je ne sais quoi me dit que cette rencontre fortuite du jardinier Cornebille et de la marquise va avoir sur la suite de notre histoire des conséquences infiniment ramifiées. Pour commencer, Ninon chassa du château le dit Cornebille sans consentir à en fournir le motif. Le marquis en fut très fâché, car il était content des services de cet homme et se montrait généralement paternel avec ses serviteurs. De plus, une grosse femme nommée Marie Coquelière, qui se trouvait en couche au moment où le jardinier fut mis dehors, faillit avoir les sangs tournés, comme on dit dans le pays, parce qu'elle savait, prétendait-elle, que Cornebille était sorcier et fort capable de jeter à la marquise un mauvais sort. Il avait changé un enfant de 4 ans en un agneau et engrossé la fille Martha de Bourgueil, rien qu'en la regardant, et qui pisait d'un seul œil, car il louchait affreusement. Mais Ninon avait trop de honte à rencontrer dans le jardin le témoin de sa malheureuse excentricité. Elle fut inflexible, malgré les froids contagieux qu'avaient répandu les craintes de Marie Coquelière. Personne ne se prêtait à signifier à Cornebille l'ordre de la marquise. Les gens s'éclipsaient l'un après l'autre ou prétendaient qu'ils ne trouvaient point l'homme au pavillon où ils logeaient. Les autres prétextaient des migraines. Ces messieurs étaient sans cesse à la chasse. Alors ce fut la première occasion qu'Ninon d'éprouver le dévouement du jeune chevalier du regard. Ce jeune chevalier, ayant su que la marquise était dans la peine, lui donnait sa croix de Malte pour lui venir en aide. Car il aimait Ninon avec toute la candeur généreuse de sa 12e année. Mais il était trop gêné en présence de la marquise pour oser lui avouer qu'il désirait la servir, quelle qu'en fût la difficulté. Il cherchait en lui-même 1000 moyens de lui faire deviner son intention, mais, peu adroit de sa nature, il s'en tint à celui de l'embarrasser de sa personne 10 fois le jour en lui obstruant le passage, si bien qu'il réussit seulement à aggraver l'état de colère où elle n'était que trop, par suite de la mauvaise volonté ou de la lâcheté de tous autour d'elle. Elle le bourra du pied à plusieurs reprises, le traita de paquet et menaça de le jeter par la fenêtre. Enfin, comme elle s'exaspérait de voir cette petite figure d'apparence impassible et qui la regardait doucement, comme un pauvre chien qu'on a fouetté, elle lui dit « Eh tiens, vas-y, toi !» Et il partit aussitôt en courant, sans attendre qu'elle lui donnât une plus longue instruction. Elle s'étonna qu'il eût compris à demi-mot et qu'il lui obéit si volontiers, et elle suivit du regard les pas du chevalier qui s'éloignait par l'allée des fontaines, goûtant, quant à lui, dans son âme neuve, la saveur du premier ravissement. Dieu te garde à la jusqu'au logis de Cornebille, situé contre le mur de clôture au fond des jardins bas. Un lierre épais le dissimulait à demi. La cheminée fumait à travers la verdure. Un chèvrefeuille garnissait l'entrée. Le chevalier porta la main à son cœur en traversant un petit potager planté de choux bien en ordre, de carottes, de chicorées écrasées sous des briques, et il regardait le trou noir de la porte grande ouverte où il ne distinguait rien. Quand il eut franchi le seuil, seulement il vit le jardinier, un long couteau à la main, qui faisait le signe de la croix sur l'envers du pain-bis avant de trancher la part de ses 2 petits-enfants et de sa femme attablée vis-à-vis. Puis Dieu de Garde entra et dit, sans perdre haleine, que Madame la Marquise faisait savoir à Cornebille qu'il eût à quitter le château, lui et les siens, aussitôt le coucher du soleil. Alors la femme commença à trembler de la tête. On voyait remuer les ailes de son caillou blanc. Elle croisa ensuite les mains sur la table et ses larmes coulèrent. Les 2 petits se mirent à crier et se réfugièrent dans son giron. Cornebille ne disait rien et coupait son pain en petits cubes réguliers qu'il piquait de la pointe de son couteau et s'introduisait coup sur coup dans la bouche jusqu'à ce qu'elle fût pleine. Puis il mâcha cela lentement, sans changer de figure, et enfin dit qu'il avait bien entendu et que cela suffisait. Le chevalier s'en alla content, car les enfants sont rarement pitoyables. Il ne pensait qu'au plaisir de Ninon. Il vint la retrouver et lui annonça le bon résultat de sa mission, sans lui fournir de détails, tant il était ému. Ninon n'eut d'attention qu'à sa volonté accomplie et à la possibilité de descendre désormais dans le parc sans avoir à rougir. Elle se pencha sur le front du jeune garçon et le baisa, bien loin de se douter que par ce seul geste, elle fixait une destinée. Et tout continua à aller au château comme auparavant. Vous avez remarqué, ou bien vous le ferez plus tard, que toutes les personnes qui étaient venues chez le marquis et le marquis de Chamarante pour l'érection de la statue y sont encore. Cela n'a rien d'extraordinaire, car, invité à la campagne, on y reste tant que les maîtres de maison ne vous font pas comprendre qu'ils désirent ardemment votre départ. Considérez aussi qu'un couple qui n'a pas d'enfant a toutes les peines du monde à demeurer isolé. Une intrigue est en train de se nouer pendant que nous parlons entre Madame de Châteaubedeau et Monsieur de Lavallée-Chouri. Les deux belles-sœurs ne se quittent pas, et M. de Lavallée Malitourne fleurette avec tout le beau sexe. Quant à Madame de Mateufelon, son but est que le jeune chevalier, son petit-neveu, prenne l'usage du monde. Elle ne s'absente guère de Fontevraud que pour aller surveiller ses vignobles. Le baron de Chemillé, lui, ne vient là que par intermittence. Mais c'est un vieil homme, indépendant, maniaque, et qui s'accoutumerait mal aux moyens et aux mœurs d'une maison étrangère. Je pense que nous aurons l'occasion de le voir chez lui avec ses deux jolies soubrettes, ses œuvres d'art, ses livres et ses rosiers. Ce n'est pas loin, il habite à côté. Il est de ces gens agréables à voir en passant, mais dont la compagnie prolongée fatigue à cause d'un goût excessif à moraliser. Mais j'arrivais maintenant à la naissance de la petite fille attendue. Je voulais la présenter tout de suite. Vous voyez combien peu un conteur fait à sa guise. Et il faut encore auparavant que je vous parle du petit Châteaubedeau. C'était le compagnon de jeu de Dieu d'Hogar. Mais autant le chevalier demeurait timide, tendre et doux, autant Châteaubedeau était hardi et précoce. Châteaubedeau, d'une distance de 100 coudées, lançait une pierre de la grosseur du poing au milieu d'une vitre de l'orangerie. Il prétendait passer ses nuits dans le lit des servantes et se vantait d'avoir vu de ses yeux la marquise de Chamarante toute nue. Encore une image que j'eusse préféré éviter, d'autant plus qu'elle se répète. La marquise de Chamarante toute nue. Voilà ce pauvre corne-bille qui a goûté la surprise de cette image et l'a payée cher. Et voilà un gamin qui se flatte d'en avoir eu l'aubaine. Mais tous ne pensent donc à cela. La vérité m'oblige à dire qu'il en est ainsi. Il y a des femmes que jamais un homme saint n'imaginera dépouiller de leurs vêtements, dont la grâce décente fait corps avec leur personne, et qui semblerait sacrilège de soulever même jusqu'à la cheville. Celles-ci sont vénérables personnes que je n'introduirai seulement pas dans un conte où l'on badine. Mais Ninon n'était pas de cette espèce. Elle était de l'espèce que tout homme saint devait à première vue. Malheur à qui aime une de ces femmes-là par le cœur. Le chevalier disait à son ami que la seule idée de coucher contre une femme lui rompait les jambes, et il avait peur de n'oser jamais quoiqu'il en eût un grand désir. Quant au fait de voir Ninon dans l'état où Château-Bedeau l'avait vue, si la fortune le favorisait d'un tel spectacle, il en perdrait certainement l'usage de ses sens. Il avouait qu'il la voyait fréquemment dans ses songes, et qu'au seul aspect de cette fallacieuse image, il se sentait défaillir. Château-Bedeau haussait les épaules. Il parlait des femmes en prononçant des mots qui faisaient frémir son ami. Ce que Dieutecard ne comprenait pas, c'était que les relations d'homme à femme prises dans la bouche de tous l'aspect de polissonnerie joviale, à tel point que lorsqu'on entend pouffer de rire, on puisse affirmer, les trois quarts du temps, qu'il s'agit d'amour. Lorsque Château-Bedeau rencontrait la femme de chambre Thérèse, il la pinçait, de préférence en un endroit vulgaire, et elle interprétait ceci comme un témoignage de passion. Parfois, pourtant, elle se retournait, elle lui donnait le nom d'un vil animal de basse-cour, et Château-Bedeau disait « comme elle-même ». Alors, Dieutecard était choqué. Quand on parlait des deux enfants, on disait bien entendu les pages, sans doute parce que le mot est joli et a la fonction charmante, et que l'un et l'autre séduiront de tout temps. Ce fut Château-Bedeau, l'un des premiers au château, qui sut que la marquise était grosse. Il l'annonça à Dieutecard, non pas en ces termes, qui ménage une femme, mais en se faisant fort des confidences de Thérèse. On en parla pendant quelque temps à mots couverts. Madame de Batefelon ne se tint pas de s'entr'ouvrir à M. l'abbé Pure, ce curé de Montsoreau, qui vint tout de suite et mit les pieds dans le plat en parlant du baptême avant que l'événement fût seulement assuré. Par bonheur, la nature n'osa pas donner au prêtre un démenti, et toutes ces dames s'employèrent à préparer la layette. Ninon passait ses jours étendue sur une chaise longue, coiffée d'un petit bonnet de dentelle, bien attristée de sa difformité, mais contente tout de même à l'idée de voir bientôt un enfant courir autour d'elle. Mesdames de la vallée Choury et de la vallée Malitourne cousait ou brodait en se faisant de doux yeux à la dérobée. Madame de Château-Bedeau secouait son ample poitrine toutes les fois que son fils commettait une espièglerie. Le gamin ne quittait pas les jupes des dames, il avait des hardiesses qui emplissaient celles-ci de joie. On confiait à Dieutecard le soin de faire la lecture, et il se rendait agréable parce que sa voix était pure et parce qu'il sentait vivement les beaux sujets. Mais ses yeux se brouillaient si Ninon le regardait. Il annonçait alors et se disait sujet à des éblouissements. Ce fut le beau temps de Madame de Matefelon, car l'approche de grands événements de la vie, comme la naissance, le mariage ou la mort, restitue leur royauté au vieillard, en même temps qu'elle mettrait vos folies. Et on écoute les paroles expérimentées. Cette dame, qui abondait en conseils, se soulagea dans la plus large mesure. Ninon fut si bien prêchée qu'elle était en proie à une infinité de scrupules touchant la manière d'élever sa progéniture. Enfin, pour la fête de la Nativité, qu'on nomme dans le pays la Bonne Dame de Septembre, par une heureuse coïncidence, la marquise mit au monde une fille qui eut pour marraine Madame de Matefelon et pour parrain Monsieur le baron de Chemillé, dont le prénom était Jacques. C'est pourquoi la petite fut appelée Jacquette. Il s'agit maintenant de Jacquette. On la fait grandir sous vos yeux le plus vite possible, afin de ne pas trop nous écarter de notre sujet, qui est l'éducation périlleuse de cette petite au milieu de nombreux exemples d'amour. Nous voici donc en présence de Jacquette, qui, je dois vous en avertir, sera notre héroïne principale. Aussi, je pris des personnes qui n'auront point pu jusqu'ici, malgré toute leur bonne volonté, et honorer de leur sympathie quelqu'un des hôtes du château de Fontevraud, de ne point encore se décourager. Jacquette commença par vider très gloutonnement les grosses bonbonnes que sa nourrice, Marie Coquelière, cette grosse femme qui craignait le sorcier Cornebille et qui a accouché une seconde fois depuis que nous avons parlé d'elle, tirait à discrétion de son corsage. Elle suçait le bout du doigt paternel, venu là en passant faire toc-toc comme au flanc des barriques pour savoir où en est le niveau. À cet âge-là, elle n'était pas plus agréable à fréquenter que les autres nourrissons. Offre-nous donc l'avantage de la voir grandir à vue d'œil. La voici au bout des lisières qui trottine sur ses jambes de poupée, lancée en avant ou vivant tout à coup, pareil à un joujou à ressort. Elle aime à voir à la cuisine tourner la broche des rôtis par un marmiton minçal ou par un chien qui court sans avancer jamais dans une grande roue en tirant la langue. Elle va visiter dans leur toit les lapins domestiques qui rongent une feuille de chou quand ils ont les oreilles en haut ou dorment quand ils ont les oreilles en bas. Les vaches dans une grande salle voûtée tendue de toiles d'araignée. Les carrosses de la vallée Chourie et de la vallée Malitourne dont les cuirs moisissent. Et la chaise qui sert à conduire sa marraine à la messe. Le grand bonheur est de descendre au bout des jardins, jusqu'à la Loire, ce qui est une longue promenade, et de regarder glisser les lents bateaux plats que mène tantôt une voile gonflée, tantôt des chevaux percherons attelés à la queue leu-leu sur le chemin de halage. Pour parvenir, non loin de l'ancien logis du jardinier, une grille de fer qu'il faut pousser contient, dit-on, dans ses gonds, un pauvre petit oiseau que l'on écrase un peu chaque fois, soit que l'on sorte du parc, soit que l'on y revienne. Et c'est le chemin du bac d'Ablevoix, où l'on s'amuse à attendre le rideau du passeur à dos du passeur, gros comme un sabot au départ de l'autre rive, et qui atterrit sans bruit près de vous, chargé d'une voiture, d'un couple de bœufs ou d'un troupeau de chèvres gênés par leur pitre avalant. Jacquette joue en liberté sur les pelouses inclinées, dans les régions du jardin privé d'eau, et lorsqu'elle tombe, elle pousse des hurlements de petit porc rose qui va à la foire. Alors Marie Coquelière s'élance sur la pente, soutenant à deux mains ses mamelles. Elle s'accroupit, relève le rouleau de fanfreluche et s'est très bien tirée, de la toilette un peu tassée, mille plis nouveaux à coups de chiquenaude. Jacquette court sous les charmilles pour attraper le rond soleil qu'elle voit au bout de l'allée, de la largeur d'un chapeau de paille qui se sauve vivement à l'autre bout dès qu'elle va mettre la main dessus. Elle possède déjà de beaux habits. On la poudre et on la décollette les grands jours. On lui montre à faire la révérence lorsqu'elle rencontre par hasard sa madame sa mère ou sa marraine, qui lui en impose énormément. Déjà, elle sait rendre le salut au page, de l'air de dire « Bonjour, gamin !» Son nom, ses cris, son babillage se perdent dans l'été, dans l'immensité des avenues ombreuses et des pelouses. Ils égayent l'hiver les corridors et les pièces sonores du château. Ben, savez-ce qu'il va falloir que je vous décrive le château? Croyez-moi, non, rien n'est plus fastidieux et plus inutile. Donc, tout ce que je puis vous dire, c'est que lorsque Jacquette et sa nourrice allaient au bac d'Ablevoix, elles apercevaient par-dessus le forêt d'arbres l'extrémité pointue d'une vieille tour accommodée en colombier et surmontée d'un épi de terre cuite. Et l'on avait ordre de jamais les éloigner jusqu'à perdre de vue ce signe de ralliement qui dominait tous les corps de logis. Quand elle remontait par l'allée descendante aux fontaines, que distinguait-elle du château? Un pan de muraille grise, en partie couvert de vignes vierges, et auquel les marronniers formaient un cadre irrégulier. Un peu plus tôt, des ardoises brillaient entre les cimes moins feuillues. Et quand elles arrivaient au pied du château, elles ne voyaient plus rien du tout, d'abord parce qu'elles ne songeaient point à le regarder, ensuite parce que l'on avait toujours peur d'être grondé pour être en retard. Dans l'intérieur, il y avait deux parties que Jacquette affectionna dès sa plus tendre enfance. Premièrement, les anciens appartements de M. Lemeunier de Fontevraud, où des moulins, armes parlantes, étaient brodés au satin des courtines et sur toutes les tentures. Elle faisait le tour des pièces en soufflant sur les ailes et croyait qu'elles se mettaient à tourner lorsqu'elles avaient disparu. Deuxièmement, la tour du Nord, où l'on montait par un escalier de pierre en colimaçon et très étroit, pour atteindre de petites chambres d'allée où il fallait chercher et déchirer de la main des chevaux de soie grise et molle que tendent les araignées. Mais une fois là, elle grimpait sur un escabeau et considérait le pays lointain qui semblait toujours très joli entre l'étroite fissure des meurtrières. La Loire y ressemblait à un ruban d'argent que de tout petits arbres piquaient d'épingles d'or quand c'était l'automne. On voyait dans les champs de mignonnes bêtes, grosses comme les pucerons des rosiers, et à l'horizon une ville de la dimension d'un écu. Lorsqu'il avait plu, on eût pu compter les peupliers sur la ligne nette des coteaux de Saumur. Ou bien, aux bras solides de sa nourrice, elle se penchait aux lucarnes et regardait au-dessous d'elle les pages jouant à la paume sur la terrasse. On entendait leurs cris et la marquise qui les appelait par leur nom pour leur essuyer le front de son mouchoir. La petite crochait pour racher pour leur faire un tour, mais sa salive, bue par l'espace, n'arrivait jamais jusqu'en bas. Et ce que Jacquette préférait à tout cela, c'était d'écouter aux portes, parce qu'elle avait remarqué que l'on coupait certains mots en deux lorsqu'elle montrait le bout de son nez. Elle quittait l'un de ses souliers à talons hauts et se juchait de l'autre pied sur cette petite borne pour atteindre le trou de la serrure, une menotte mordant le bec de canne, l'autre en arrière au creux de la taille, frétillant comme la queue d'un roquet. À l'occasion de certains désordres dans la conduite des hôtes du château, Jacquette prononça un mot énorme qui nous vaut une discussion des deux vieillards sur la pudeur. On se résout ensuite à confier l'enfant à une gouvernante. À l'heure où nous en sommes, il y avait précisément du grabuge au château, et l'on échangeait à table ou après dîner dans les coins des expressions très peu propres à former l'oreille d'un enfant. Figurez-vous que, après un si long temps, que vous pouvez d'ailleurs mesurer à la taille de Jacquette, Madame de Lavalée-Choury venait seulement de faire du bruit à propos des relations adultères de son mari avec la grosse belle Madame de Châtebedeau. Cela tenait à ce que M. de Lavalée-Choury avait mis littéralement des années à parvenir à ses fins. Il est vrai qu'il s'était produit quelques interruptions dans le séjour de tout ce monde-là au château. Par décence, chacun retournait chez soi à l'espace de quelques mois, et c'était autant de perdu pour la conquête. Mais cela n'eût pas suffi encore à faire ainsi piétiner l'amour sur place, d'autant qu'il n'y avait pas apparence que Madame du Château-Baudot fût une femme à opposer une résistance opiniâtre, à vrai dire, elle n'en proposait presque pas. Mais M. de Lavalée-Choury était d'une hésitation extrême. Lui et son frère souffraient d'une infirmité curieuse, héritée assurément du grand-père de Lavalée, vieux débauché du temps de la Régence, et qui se traduisait chez l'un par la maladresse extraordinaire en tous ses gestes, d'où le nom de malitourne, et l'autre par une sorte de bégaiement de la volonté, s'il est permis de s'exprimer ainsi, incapacité de se décider à quoi que ce soit, malgré certains désirs violents. Monsieur de la Vallée Chourie désirait Madame de Châteaubedeau, quoiqu'il aimât beaucoup sa femme. Il se disait que celle-ci aurait du chagrin s'il la trompait. Il en mesurait minutieusement les conséquences et temporisait. Mais d'autre part, quand il voyait les bras pleins, fort consistants, pleins en blanc de lait de Madame de Châteaubedeau, ses épaules arrondies et lisses comme le dos des otaries qui ondulent dans l'eau, sa gorge puissante que toutes ces dames disaient sans défaut, il en mesurait l'attrait avec le charme acide de sa petite femme, et ce faisant, se ruait sur celle-ci avec l'espoir de tromper l'appétit qu'il avait de l'autre, ce qui, effectivement, contribuait à lui donner de la patience. Il poursuivrait très probablement encore aujourd'hui ce manège si sa femme elle-même, lassée de ses assiduités intempestives, n'en eût par ses propres soins dérivé le cours vers celle à qui elles étaient mentalement destinées. Et ce qu'elle dut encore se donner de mal est inouï. Mais elle n'avait pas plutôt mené à bien son entreprise qu'elle fonçait sur le pauvre Chourri encore tout moulu de plaisir avec les imprécations ordinaires à l'épouse outragée. En présence de cette malchance, M. de la Vallée Chourri désirait ardemment reconquérir l'amitié de sa femme, mais en même temps il jugeait indélicat d'abandonner sa maîtresse sur ce coup d'essai. Pour lui, désormais, agir, c'était rompre avec Madame de Châteaubedeau, et il ne pouvait pas s'y décider. Ajoutons que sa femme courroucée, en se refusant à ses baisers, le rejetait aiguillonné vers sa maîtresse. Elle le savait bien, la coquine, tandis que la veuve aspirait l'indécisamment comme une éponge de Venise boit d'un verre d'eau. Ces événements apportaient un certain trouble dans la conversation, car chacun les avait présents à l'esprit et s'y intéressait si vivement que l'on éprouvait bien de la peine à parler d'autre chose. Aussi, pour un oui, pour un non, appelait-on Jacquette qui faisait diversion. Ces messieurs l'embrassaient, cela passait, lui versaient à boire. Elle profitait des gelées, des croquignoles, de la mousse qu'on lui faisait humer au bord des verres, recueillait entre-temps des allusions chuchotées à l'oreille auprès d'elle, les répétait tout haut, faisait scandale, et on la mettait à la porte. Les choses s'envenimèrent un beau jour par l'intermédiaire de Madame de Maffetevelon, qui s'indignait de ce désordre. Usant de son ascendant sur Ninon, cette dame ne l'avait-elle pas convaincue de la nécessité d'expulser les Châteaubedeau, mère et fils? On s'attendait à l'exécution de cette mesure de rigueur, et on s'ingéniait à l'écarter, car la maman était bonne âme et le fils amusant par ses sottises mêmes. Au beau milieu du silence qu'imposa la majesté d'une pièce de pâtisserie, Jacquette, en perroquet fidèle, lança une phrase recueillie par elle où on sait tout. « Je ne vois qu'un moyen de tout raccommoder, dit-elle, c'est de cacher Châteaubedeau dans le lit de maman. » Ce mot excessif, aux lèvres d'un enfant, eut une suite imprévue. De l'expédient préconisé par Jacquette, Ninon ne retint que le fait qu'une telle intempérance de langage sortait de la bouche de sa fille. Et elle s'alarma à bon droit d'une éducation qui donnait urgent de surveiller et de près. La marraine renchérissait comme il convenait, on oublia le reste, et jusqu'au Châteaubedeau. D'ailleurs, le sujet nouveau donnait de l'aise aux relations, et ce fut à qui fournirait les plus utiles préceptes de morale. Madame de Maffetevelon voulait que l'enfant fût soustraite à toute influence fâcheuse, qu'on lui donnât des appartements, une gouvernante éprouvée et des livres édifiants. afin que fût éloigné de la fillette tout ce qui participe à la vie impure du monde. Monsieur le baron de Chemillé lui fit observer que c'était tout le contraire qu'elle semblait rechercher pour son petit-neveu, le chevalier de Tegard. « Il est vrai, dit-elle, mais il s'agit de faire de monsieur le chevalier un homme, et de Jacquette. Une femme, cela va sans dire. » Monsieur de Chemillé remuait le pois chiche qu'il portait dans l'aile droite du nez, et puisant une pincée de poudre blonde dans sa damantière, il referma celle-ci d'un coup sec. « Depuis plus de 7000 ans qu'il y a des hommes qui font l'amour, dit-il, nous n'avons trop tard, ma bonne dame, pour empêcher que notre filleule en surprenne le secret. Qu'elle ouvre les yeux sur cet ingénieux mécanisme aujourd'hui ou plus tard, l'inconvénient n'est pas gros. » Je vous laisse à penser si madame de Matefelon se tréboussait. « Oh, monsieur, dit-elle, fallait-il que j'atteignisse l'âge que j'ai pu... que j'ai pour entendre blasphémer de la sorte ce qui, depuis que le monde est monde, fait l'objet du plus cher souci des mères, la pudeur de la jeune fille. « Tout beau, dit monsieur de Chemillé, je me garde bien de médire, madame, du délicat sentiment que vous évoquez. Je dis seulement que les œillères que l'on met aux filles, pour les garantir, ne font que les émoustiller davantage. » En leur inspirant le désir de fruits défendus, qui de tout temps exerça un grand attrait sur l'animal pensant. C'est leur déformer la figure véritable des choses, qu'elles ont tant de mal après à remettre au point, puisque si bien il faudra tôt ou tard qu'elles les envisagent de front. Que ne laissez-vous faire la nature et la vie comme elles vont ? La pudeur dit le baron en faisant claquer sa langue comme s'il parlait d'une sauce. « Quelle chose exquise !»« Et tenez, elle est peut-être le plus sensationnel aliment de l'amour. » La dédaigner est le fait d'un tempérament affaibli qui renie par impuissance le noble désir de conquête ou le secret appétit du viol qui est le propre de la virilité à parler franc. L'homme méprise la femme qui se donne à lui. Il a le goût de la lutte, du combat. Il aime enlever la femelle de vive force et l'orgueil de la victoire le dispose au sentiment durable de l'amour. Oh non, n'entendons pas ces choses-là de la même oreille. Je le vois bien, interrompit madame de Matefelon. Mais puisque vous consentez à donner quelques prix à la pudeur, dites-moi donc comment vous éviterez que ce sentiment s'émousse s'il est soumis aux rudes assauts que le spectacle de la vie lui fournira, d'après votre méthode. Mais il ne s'émousse pas plus, dit le baron, que la bonté, par exemple, ou bien que le caractère grincheux que nous apportons en naissant, et qui nous abandonne qu'avec notre dernière chemise. Le spectacle du monde ou la mode nous apprenne à faire fi dans le public de tel ou tel penchant naturel, qui se retrouve infailliblement au moment venu dans le particulier. Tantôt c'est bon ton d'être subtil en amour, tantôt de le faire quasi comme les bêtes. Des mots, madame. Bouche à bouche, les vrais amants se retrouvent et prononcent les mêmes onomatopées que proféraient nos grands-papas et nos grands-mamans d'avant le déluge. Il en est de même de l'effroi pudique que bien de belles foulent aux pieds, aux chandelles, et quand une brillante compagnie les entoure, qui sort des petites filles, les rideaux tirés, et contre la poitrine d'un homme, pourvu que le cœur s'en mêle. La pudeur. Mais elle renaît chez la catin, la plus éhontée. Tout à coup, quand elle se met à aimer, s'en frime une bonne canaille d'homme. Oh, il n'y a point à raisonner avec vous là-dessus, reprit la marraine. Vous parlez des vertus des femmes comme vous le feriez de la qualité du rouge dont elles cernent le visage, pour vous séduire, et l'on dirait qu'elles se sont honteuses et réservées que pour aiguillonner vos sens. Aussi la femme aurait-elle des qualités garantes, de bon teint et d'autres qui manquent de passer au premier lavage? Mais qu'importe la pluie et les orages, si la pudeur se retrouve au moment de s'en servir. Dieu me pardonne. Oh, ce maudit baron me fait parler une langue de parcocerf. Eh bien, messieurs, nous considérons, nous autres, la pudeur en elle-même, et nous disons qu'elle mérite de n'être pas froissée, uniquement parce qu'elle est la plus tendre et la plus délicate parure que le ciel ait donnée à la jeunesse, parce qu'il y a, pour la créature qui a reçu cette grâce divine, aux premières heures, une douleur d'un genre trop particulier pour qu'un honnête homme la comprenne jamais. Ce qui peut-être la rend plus précieuse encore à notre sexe. Enfin, parce que je sais pas le spectacle plus pénible pour quiconque à l'épiderme un peu sensible que d'être témoin de ces chocs. Je trouve, dit Ninon, que vous savez tous les deux de fort bonnes choses et que vous parlez très bien. Mais je ne vois point dans tout cela le parti que je dois prendre vis-à-vis de ma fille, qui prononce des mots à faire dresser les cheveux. Mais pratiquez uniquement la vertu autour d'elle, dit le baron. Ah, pour une fois que vous hasardez une chose sensée, dit madame de Matefelon, que n'avez-vous le courage de le faire sans ricaner? Ninon songea à mettre Jacquette au couvent. Il y en avait un célèbre dans le pays. Mais outre que mesdames de la Vallée-Chourie et de la Vallée-Malitourne y avaient été élevées, on n'en disait point de bien. Ces dames racontaient que l'on s'y baignait 2 fois l'an, à partir de l'âge habile, nubile, et vêtu d'un grand sac de toile, qu'une converse, les yeux baissés, vous passait et vous nouait au cou, sous la chemise avant d'enlever celle-ci, et vous arrachait de même au sortir de l'eau, après avoir repassé la chemise, de telle sorte qu'à aucun moment le corps ne put apparaître à nu, que les mains ne fussent tentées d'en frôler les contours, et les yeux d'y exercer la concupiscence. Le même usage était pratiqué, disait-on, par les religieuses, et grâce à lui, un homme avait pu se dissimuler et vivre au couvent, sous figure de nonne, 11 mois durant.